Chapitre 19. En traversant le marché en plein air, Jensen imagina qu'elle avançait dans la forêt, l'endroit où elle se sentait chez elle, et pas au milieu d'une horde d'inconnus tous plus menaçants les uns que les autres. Bon sang, elle aurait donné cher pour que ce soit vrai. Être dans une forêt avec sa mère et regarder Betty brouter de jeunes pousses. Quand elle fermait brièvement les yeux, il lui semblait entendre les oiseaux chanter. Quelques commerçants et leurs clients la regardaient passer avec curiosité, mais elle gardait la tête baissée et s'éloignait sans leur accorder une once d'attention. Jensen s'inquiétait beaucoup au sujet de son amie d'enfance. Irma vendait de la viande de chèvre et ça expliquait pourquoi elle avait voulu acheter Betty. La pauvre bête devait être terrifiée de se retrouver seule avec une inconnue. Mais si son destin était important, car elle méritait d'être sauvée, la survie de Sébastien restait prioritaire. Les échoppes qui vendaient de la nourriture étaient une torture pour la jeune femme. Toutes ces bonnes odeurs lui rappelaient qu'elle crevait de faim, surtout après avoir pris tant d'exercices dans les divers escaliers du palais. Sans rien dans l'estomac depuis le matin, Jensen aurait aimé avoir au moins de quoi s'acheter une miche de pain, mais il ne lui restait plus un sou. Autour d'elle, des gens cuisinaient sur des feux alimentés par du bois qu'ils avaient sans doute apporté avec eux. Partout, de délicieuses odeurs montaient des poêles où cuisaient des ragoûts et des jardinières de légumes. Ces arômes faisaient tourner la tête de la jeune femme qui se demandait parfois si elle n'allait pas s'évanouir. Dès qu'elle oubliait sa faim, ses pensées revenaient à Sébastien. Chaque seconde qu'elle perdait pouvait lui valoir un autre coup de fouet, un nouvel os cassé, un ongle arraché de plus. Imaginer le calvaire qu'il vivait donnait envie de vomir à Jensen. Dans ces conditions, il n'était pas étonnant qu'il se soit aventuré en terre ennemie au risque de sa vie pour contribuer à la défaite de Dara. Une idée encore plus terrifiante traversa l'esprit de la jeune femme. Les morts de Sith. Partout où elle avait voyagé en Dara avec sa mère, les gens craignaient ces femmes plus que quiconque d'autre. Leur aptitude à infliger la douleur était légendaire. Dans le royaume des vivants, disait-on, les morts de Sith n'avaient pas d'égal et on pouvait même se demander si le gardien était à leur niveau. Et si Sébastien était entre les mains d'une de ces femmes? Qu'il n'ait pas le don ne changeait rien? Avec leur agiel, et le Créateur savait quoi d'autre, les morts de Sith pouvaient faire souffrir n'importe qui. Le pouvoir de s'approprier la magie de leur adversaire était une sorte de bonus. Un être humain normal, comme Sébastien, n'avait absolument aucune chance de leur résister. La foule s'éclaircit dès que Jensen fut sortie du marché en plein air. Ce qu'elle avait pris pour une route menant à l'ouest s'arrêtait devant le dernier étal où un commerçant dégingandé proposait de la céleri et des harnais d'occasion. Derrière son chariot rempli de marchandises, il n'y avait rien, à part un désert. Une interminable colonne de gens avait pris la route qui conduisait au sud. Plus loin, une intersection permettait de se diriger vers le sud-ouest et le sud-est, mais aucun chemin ne partait vers l'ouest. Quelques commerçants et une poignée de clients regardèrent Jensen partir seul en direction du soleil couchant. Personne ne tenta de la suivre, ni de l'empêcher de s'enfoncer dans les terribles plaines d'Azrith. La jeune femme s'en félicita, car la compagnie des autres, comme elle le redoutait depuis toujours, s'était révélée une menace perpétuelle. Marchant d'un bon pas, Jensen s'éloigna très vite du marché. Pour se rassurer, elle glissa la main sous son manteau et toucha la garde de son couteau. Serrée contre son corps, l'arme était chaude comme une créature vivante, pas comme un objet fait d'argent et d'acier. Au moins le voleur ne lui avait pas pris le couteau. La perte des pièces la désolait, mais ce n'était pas un drame pour elle. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait vu sa mère se débrouiller avec un minimum d'argent. En revanche, un couteau pouvait être vital en cas de danger. Les gens qui vivaient dans les palais avaient besoin d'argent. Les vagabonds, eux, ne pouvaient pas survivre sans une bonne lame, et celle-ci, malgré son origine, était la meilleure que Jensen ait jamais eue. Du bout des doigts, elle suivit les contours du R qui ornait la garde. Certaines personnes avaient sûrement besoin d'un couteau, même si elles vivaient dans un palais, soupçonna-t-elle. Se retournant, Jensen fut soulagée de voir que personne ne la suivait. Elle était maintenant si loin du haut plateau que les gens qui s'agitaient dans la plaine au pied du palais lui semblaient aussi petits que des fourmis. Avoir quitté cet endroit lui faisait plaisir. Hélas, pour sauver Sébastien, elle devrait y retourner après avoir vu Althea, et ça, c'était une idée beaucoup moins réjouissante. Le vent lui cinglant le visage, Jensen décida d'avancer un moment à reculons. Cela lui permit d'étudier le paysage d'un point de vue inédit. Suivant du regard la route qui serpentait le long de la falaise jusqu'au mur d'enceinte du palais, une voie d'accès qu'on ne distinguait pas lorsqu'on arrivait par le sud, elle remarqua que ce chemin traversait un gouffre impressionnant. Pour l'instant, le pont-levis qui permettait de passer était relevé. En cas d'attaque, cette défense naturelle serait d'une mortelle efficacité. Et même si les agresseurs parvenaient à la franchir, par exemple en prenant le contrôle du pont, il leur faudrait encore escalader la muraille d'enceinte sous une pluie de projectiles et d'huile bouillante. Jensen espéra que la demeure d'Altea n'était pas aussi bien défendue. Sébastien était prisonnier quelque part dans le gigantesque palais. Se sentait-il triste et abandonné comme Betty si elle était encore en vie? Jensen implora les esprits du bien d'aider son ami à ne pas perdre espoir. Elle leur demanda aussi de lui souffler à l'oreille qu'elle faisait tout pour le sortir de là. Quand elle fut lasse de marcher à reculons et de voir le palais du peuple, la jeune femme se retourna. Avancer avec le vent de face ne fut pas facile car les bourrasques glaciales lui coupaient le souffle et lui envoyaient dans les yeux des nuages de poussière. Le désert était aride et désolé comme il se devait. Une alternance de sol rocheux et d'étendue de sable un peu plus brunâtre que le reste du terrain, comme s'il s'agissait d'immenses taches de thé très noires. La végétation très rare était ratatinée et miteuse. À l'ouest se dressait une chaîne dont le plus haut sommet, au centre, pouvait bien être couronné de neige, mais de si loin c'était difficile à dire. Se demandant à quelle distance elle en était, Jensen eut du mal à produire une estimation. Peu habituée aux plaines, elle ne réussissait pas à trouver des points de repère fiables. Elle allait peut-être devoir marcher des heures ou des jours. Au moins, elle ne serait pas obligée de patauger dans la neige, contrairement aux gens qui allaient au palais par la route extérieure, et c'était déjà ça de gagné. Même en hiver, comme l'avait souligné le marchand blond, Jensen aurait besoin d'eau. Mais en principe, elle devrait en trouver sans problème dans un marécage. La marchande de coussins brodés avait parlé d'un long chemin, mais sans préciser ce qu'elle entendait par là. Ce qui lui semblait une interminable marche pouvait être pour Jensen l'équivalent d'une tranquille randonnée. La jeune femme espéra qu'il en serait ainsi. Même si l'idée de s'aventurer dans un marécage ne l'enthousiasmait pas, elle était pressée d'atteindre sa destination. Captant un son lointain, elle se retourna et vit une petite colonne de poussière monter dans le ciel très loin derrière elle. Les yeux plissés, elle finit par voir qu'il s'agissait d'un chariot. Apparemment, le véhicule venait droit sur elle. Jensen regarda autour d'elle en quête d'une cachette. Hélas, elle n'en repéra pas. Et l'idée d'être rattrapée par le chariot en terrain découvert la terrifiait. Si des hommes malveillants l'avaient vue quitter le marché en plein air, ils pouvaient avoir décidé d'attendre qu'elle soit très loin dans la plaine pour se lancer à sa poursuite et l'attaquer. Un bon moyen d'être sûr de ne pas être dérangé quand ils s'occuperaient d'elle. Jensen se mit à courir. Le chariot venant du palais, elle continua d'avancer en direction des montagnes vers l'ouest. L'air glacé lui faisant mal à la gorge tant elle l'aspirait violemment, la jeune femme sonda le terrain sans apercevoir l'ombre d'un endroit où elle aurait pu se dissimuler. Dans les montagnes, cela aurait été différent, mais il était évident qu'elle ne les atteindrait pas avant que ses poursuivants les rattrapaient. Consciente qu'elle se comportait comme une idiote, Jensen se força à s'arrêter. Quoi qu'elle fasse, elle ne pourrait pas courir plus vite que des chevaux. Pliée en deux, les mains sur les hanches, elle reprit son souffle en regardant approcher le chariot. Si des gens arrivaient avec l'intention de s'en prendre à elle, s'épuiser inutilement au lieu de préserver ses forces pour se défendre, était d'une imbécilité crasse. Elle se remit en chemin à pas rapide mais raisonnable. Si elle devait se battre, autant être en pleine possession de ses moyens. Mais il s'agissait peut-être de marchands qui rentraient chez eux et qui changeraient de direction longtemps avant de l'avoir rattrapée. Elle avait repéré le chariot à cause du bruit qu'il produisait et de la poussière qu'il soulevait. De là où ils étaient, les occupants du véhicule ne la voyaient probablement pas. À moins que... Et si ce n'était pas un hasard? Ni des hommes du marché? Une mort de cygne pouvait avoir déjà arraché la vérité à Sébastien? Impitoyable comme elle l'était, ces femmes devaient briser un prisonnier en quelques heures. Quand elle imaginait qu'on lui cassait les os les uns après les autres, Jensen ne pouvait pas honnêtement affirmer qu'elle n'aurait pas trahi sa propre mère. Sous la torture, nul ne savait comment il réagirait, et c'était normal. N'en pouvant plus, Sébastien avait peut-être déjà livré Jensen aux morts de site. Il savait tout sur elle. Son nom, l'identité de son père, son lien familial avec Richard Rall, et il était même informé qu'elle voulait demander de l'aide à Altea. Les morts de site avaient peut-être promis à Sébastien de le laisser en paix s'il leur disait tout ce qu'il savait. Pouvait-on reprocher une trahison à quelqu'un dans ces conditions ? Ce chariot était peut-être plein de grands soldats d'Aran chargés de la capturer. Dans ce cas, son cauchemar était peut-être à peine en train de commencer. En arrivait-elle au jour qu'elle avait redouté toute sa vie? Alors que la peur lui arrachait des larmes, Jensen glissa une main sous son manteau pour s'assurer que le couteau à garde d'argent coulissait bien dans son fourreau. L'arme glissa comme il le fallait et se remit en place dans sa gaine de cuir avec un cliquetis métallique que la jeune femme trouva très rassurant. Elle continua à marcher, certaine que le chariot serait très bientôt à sa hauteur. Essayant de contrôler sa peur, elle passa en revue tout ce que sa mère lui avait appris au sujet du maniement des armes. Jensen était seule, mais pas sans défense. Elle savait parfaitement que faire, se rappela-t-elle, et elle ne devait jamais perdre ça de vue. S'il y avait trop de soldats, ses compétences ne lui serviraient à rien, elle le savait. Dans la cabane, ses agresseurs l'avaient surprise et elle ne s'était jamais sentie aussi impuissante de sa vie. Si Sébastien n'avait pas été là, elle ne s'en serait jamais sortie. Quand elle regarda derrière elle, le chariot était à quelques dizaines de pas. Jensen s'immobilisa, laissant les pans de son manteau frotter assez pour qu'elle puisse s'emparer de son arme et surprendre ses agresseurs. L'élément de surprise pouvait aussi jouer pour elle, et c'était le seul avantage qu'elle pensait avoir. Avec un sourire étincelant, un colosse blond tira sur les rênes de son attelage. Ses roues soulevant des cailloux et de la poussière, le chariot s'arrêta dans un concert de grincements. Le conducteur serra le frein. Quand la poussière se fut dissipée, Jensen reconnut le marchand de vin. L'homme qui avait un emplacement à côté d'Irma, celui qui lui avait fait boire du vin. Il était seul. Se méfiant toujours, Jensen garda la main droite près de son couteau.
« Que faites-vous ici ? »
demanda-t-elle d'un ton cassant.
« Je viens de te proposer de faire un petit tour avec moi, madame, »
répondit le marchand sans cesser de sourire.
« Et vos... tes frères ?
Je les ai laissés au palais. »
Jensen se méfia d'instinct car cet homme n'avait aucune raison d'être venu jusque-là pour l'aider.
« Merci, » dit-elle, « mais tu ferais mieux de rebrousser chemin et de t'occuper de tes affaires. »
Le marchand sauta du chariot. Jensen se retourna, prête à se battre si ça s'imposait.
« Je ne me sentirais pas bien si je faisais ça, » dit l'homme.
« Si tu faisais quoi ? » ?»«
Eh bien, je ne pourrais plus me regarder dans un miroir si je te laissais marcher seul vers ta mort, une issue inéluctable puisque tu n'as ni eau ni vivre. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit au sujet des choses qu'il faut faire pour que l'existence vaille la peine d'être vécue. La mienne n'aurait plus de sens si je t'abandonnais à ton destin. »
L'homme hésita, son ton soudain beaucoup moins assuré.
« Allez, monte dans le chariot et permets-moi de t'accompagner. Et tes frères ? Juste avant que je découvre qu'on m'avait détroussé, tu as refusé de me louer un cheval parce que vous deviez rentrer chez vous. »
Les pouces glissés dans sa ceinture, le marchand consentit à s'expliquer.
« Nous avons vendu tellement de vin aujourd'hui. Avoir les poches pleines change bien des choses, tu sais. » Joe et Clayton avaient envie de rester un peu au palais pour prendre du bon temps. Grâce au client que nous a fait avoir Irma avec ses saucisses, mes frères vont s'amuser comme des petits fous. Moi, j'ai décidé d'en profiter pour t'aider. Irma t'ayant pris ta monture et tes vivres, j'ai eu le sentiment que te véhiculer était la moindre des choses. Une affaire de justice, si tu vois ce que je veux dire. Bon, je ne vais pas risquer ma vie, mais simplement t'accompagner. J'aide une personne qui en a besoin, c'est tout.
Jensen n'était pas en position de refuser une main tendue, bien sûr, mais comment se fier à un inconnu ?
« Je m'appelle Tom, »
dit l'homme comme s'il avait lu ses pensées,
« et je te serais reconnaissant si tu me laissais t'aider. »«
Reconnaissant ? » ?»«
Tu l'as dit toi-même. Accomplir certaines missions est valorisant. »
Tom jeta un bref coup d'œil aux mèches rousses de Jensen sous son capuchon. Il esquissa un sourire mais redevint très vite sérieux.
« Voilà ce que j'éprouverais, si tu me permettais de t'aider. De la gratitude parce que j'aurais fait une bonne action. »«
Je m'appelle Jensen, mais je... »«
Monte avec moi dans le chariot. J'ai du vin et...
je n'aime pas le vin. Il me donne encore plus soif. »
Tom haussa les épaules.
« J'ai aussi de l'eau et des tourtes à la viande qui doivent être encore chaudes. Si tu te décides vite, tu vas te régaler. »
Jensen sonda un moment les yeux de Tom, bleus comme ceux de son monstre de père. Malgré cette détestable coïncidence, la jeune femme lut une désarmante sincérité dans le regard du marchand de vin, comme dans son sourire d'ailleurs qui n'avait rien d'arrogant.
As-tu une épouse auprès de laquelle retourner quand tu as fini ta journée de travail ?
Tom baissa les yeux.
Non, madame, je ne suis pas marié. Je voyage beaucoup et je doute qu'une femme se ferait à ce genre de vie. De plus, changer tout le temps d'endroit ne me laisse guère l'occasion de connaître assez bien une femme pour songer à l'épouser. Cela dit, j'espère en trouver une un jour. Quelqu'un qui voudra partager ma vie. Une personne qui me fera sourire et qui me forcera à donner le meilleur de moi-même.
Jensen fut surprise de voir que sa question avait rendu Tom rouge comme une pivoine. Apparemment, la hardiesse dont il faisait montre avec elle n'était pas habituelle, bien au contraire. En réalité, cet homme devait être affligé d'une timidité quasiment maladive. Qu'un colosse comme lui puisse être intimidé par une femme seule, tout ça parce qu'elle l'avait interrogé sur sa vie privée, rassura beaucoup Jensen.
« Si tu m'accompagnes, dit-elle, ça ne risque pas de nuire à tes affaires ?»«
Non, non, pas du tout. »
Tom désigna la plaine dans son dos.
« Nous avons fait de jolis bénéfices aujourd'hui, et c'est le moment de s'offrir un peu de repos. Mes frères sont tout à fait d'accord. Toute l'année, nous voyageons pour acheter à un bon prix tout ce qu'on peut imaginer. Du vin, des tapis, des volailles. Puis nous venons ici pour vendre nos marchandises. Mes frères sont ravis de se reposer un peu après tant de mois passés à travailler. »
« Ta proposition m'intéresse, Tom. »«
Je sais. La vie d'un homme est en jeu. »
Le marchand remonta dans son chariot et tendit une main à Jensen.
« Ne te blesse pas en montant, madame. »« Je m'appelle Jensen, »
dit la jeune femme en s'accrochant à l'énorme main du colosse.
« Tu me l'as déjà dit, madame. »
Dès que Jensen fut assis sur le banc du conducteur, Tom prit une couverture sous le siège et la lui posa sur les genoux. Par délicatesse, comprit la jeune femme, il n'avait pas voulu étendre la couverture sur elle. Pendant qu'elle s'en chargeait, elle sourit à son nouvel ami pour le remercier. Tom tendit une main derrière lui et sortit de sous une couverture les tourtes à la viande enveloppées dans un morceau de tissu blanc. Comme il l'avait promis, elles étaient encore chaudes. Il prit aussi une outre d'eau et la posa entre eux sur le siège.
« Si tu préfères, madame, tu peux voyager à l'intérieur du chariot. J'ai apporté plusieurs couvertures pour que tu aies bien chaud. » Tu serais sans doute mieux derrière que sur ce banc inconfortable.
« Ça me va très bien pour l'instant, »
dit Jensen. Elle prit une tourte et la brandit devant elle.
« Quand j'aurai récupéré mes chevaux, mes vivres et mon argent, je te dédommagerai pour tout ce que tu fais. Garde bien le compte afin que je sache ce que je te dois. »
Tom desserra le frein et fit claquer les rênes.
« Si c'est ce que tu veux, mais je ne comptais pas là-dessus. »«
J'y tiens, »
dit Jensen alors que le chariot s'ébranlait.
Très vite, le véhicule s'écarta du chemin que suivait la jeune femme pour se diriger légèrement vers le nord-ouest. « Que fais-tu ? »
demanda Jensen de nouveau soupçonneuse.
« Où veux-tu donc m'emmener ? »
Tom parut surpris par la réaction agressive de sa passagère.
« Tu m'as bien dit que tu voulais aller chez Altea ? Ou ai-je mal compris ? » ?»«
C'est ça, mais on m'a conseillé de marcher vers l'ouest jusqu'au plus haut pic de la chaîne, celui qui est couronné de neige. Ensuite, il faudra avancer en direction du nord, le long de...
« Je comprends pourquoi tu t'inquiètes, »
coupa Tom.
« Mais cet itinéraire est tout juste bon à rallonger le voyage d'un jour entier. »«
Pourquoi la marchande de coussins m'aurait-elle fait perdre du temps ainsi ?»«
Parce que c'est le chemin que tout le monde emprunte et qu'elle ignorait que tu étais pressé. »«
Si c'est plus long, pourquoi les gens passent-ils tous par là ?»«
Les voyageurs ont peur du marécage. Cet itinéraire permet de n'en traverser qu'une très petite partie avant d'arriver chez Altea. » À mon avis, la femme qui t'a parlé n'en connaissait pas d'autre.
Le chariot dut négocier un trou sur le semblant de piste, et Jensen fut obligé de s'accrocher au banc pour garder son équilibre. Tom avait raison. Le siège en bois n'était pas très confortable, surtout quand le véhicule, parce qu'il n'était pas chargé au maximum, cahotait autant.
Ne devrais-je pas aussi redouter le marécage ?
Eh bien, sans doute.
Alors pourquoi ne pas me faire prendre le chemin normal ?
Tom regarda sa compagne et en profita pour jeter un nouveau petit coup d'œil à ses cheveux. Habitué à la curiosité des gens, Jensen ne s'en formalisa pas.
« Tu as dit qu'un homme était en danger, »
déclara Tom, oubliant soudain sa timidité.
« Le chemin que j'ai choisi est beaucoup plus rapide, puisqu'il évite de remonter le canyon entre les murailles rocheuses. En contrepartie, tu devras entrer dans le marécage plus tôt et donc le traverser sur une plus longue distance. » Et ça ne me fera pas perdre du temps ?
S'étonna la jeune femme.
Ma progression risque d'être très lente.
C'est vrai, mais même comme ça, mon chemin te fera gagner une bonne journée.
Aller-retour, ça en fait deux, ce qui n'est pas négligeable.
Certes, mais Jensen détestait les marécages.
Pour être plus précise, elle abominait les créatures qui y vivaient. Est-ce dangereux ?
S'enquit-elle.
Si j'ai bien compris, l'enjeu est important, sinon tu ne te serais pas aventuré dans le désert sans vivre ni monture.
Tu as parlé d'une affaire de vie ou de mort. Étant prête à prendre tous les risques, tu ne vas sûrement pas reculer alors que tu peux gagner du temps. Enfin, c'est ce que j'ai pensé.
Si tu préfères, je peux te faire passer par l'autre chemin, qui est beaucoup plus tranquille. À toi de voir. Mais si tu es vraiment pressé, sache que ça te fera perdre deux jours entiers.
Non, tu as raison.
Serrant toujours la tourte encore chaude, Jensen songea que Tom était décidément un homme prévenant et intelligent.
Et puisque nous y sommes, merci d'avoir pensé à voler à mon secours.
Qui est l'homme dont la vie est en jeu ?
Un ami.
Un très bon ami, je suppose.
Sans lui, je ne serais plus de ce monde.
Tom se tut tandis que le chariot avançait vers la chaîne de montagne.
Maussade, Jensen songea à ce qui l'attendait dans le marécage. Cela dit, Sébastien risquait d'être pendu si elle n'arrivait pas à temps chez Althea.
Quand atteindrons-nous le marécage ?
Demanda-t-elle soudain.
Tout dépend de l'enneigement du col et de quelques autres données. Je ne passe pas souvent par là, tu sais. Mais si nous voyageons toute la nuit, nous ne devrions pas être loin du but demain matin.
Et à partir de là, combien de temps faudra-t-il pour arriver chez Althea ?
Tom eut l'air embarrassé.
Désolé, Jensen, mais je n'en sais pas trop. Je ne me suis jamais aventuré dans le marécage de la magicienne. D'accord. Mais tu dois bien avoir une idée.
D'après ce que je sais de la configuration du terrain, tu ne devrais pas en avoir pour plus d'une journée aller-retour. Mais c'est une estimation, ça ne tient pas compte du temps que tu passeras avec Althea.
Tom eut de nouveau l'air très mal à l'aise.
Je vais te conduire chez la magicienne aussi vite que possible.
Jensen voulait parler à Althea du seigneur Rall. En fait, des seigneurs Rall. Son père et l'actuel maître de Dara, son demi-frère, Richard. Mais il valait mieux que Tom ne sache rien de tout ça. S'il découvrait la véritable identité de Jensen et ce qu'elle avait en tête, il risquait de perdre toute envie de l'aider. Donc, il ne fallait pas qu'il assiste à l'entretien avec la magicienne. Mais quelle bonne raison invoquer pour qu'il consente à rester en arrière.
Tom, je crois qu'il vaudrait mieux que tu veilles sur les chevaux et sur le chariot demain matin. Après une nuit blanche, tu auras besoin de repos. Comme nous repartirons dès mon retour, procéder ainsi nous fera gagner du temps.
Le marchand prit le temps de réfléchir, puis il hocha la tête.
C'est logique, je sais, mais...
Et il n'y a pas de mais. Je te suis reconnaissante de m'avoir accompagnée, et je ne te remercierai jamais assez pour la nourriture, l'eau et la couverture. Mais je ne veux pas que tu risques ta vie dans le marécage. Tu m'aideras davantage en veillant sur le chariot et en étant prêt à partir dès que je reviendrai.
Pendant que Tom réfléchissait, Jensen regarda le vent faire volter ses cheveux blonds.
D'accord, si c'est ce que tu veux. Je suis déjà content que tu me laisses participer à cette aventure.
Où voudras-tu aller après ta rencontre avec Althea ?
Au palais. Alors, si la chance nous sourit, je t'y aurai ramené dans deux jours.
En clair, ça signifiait que Sébastien aurait passé trois jours entre les mains des soldats ou des morts de site. Pouvait-on survivre si longtemps à la torture ? Jensen en doutait, mais elle devait prendre tous les risques au cas où il y aurait quand même un espoir. Malgré ses angoisses au sujet du marécage, elle se régala de sa tourte à la viande. Affamée comme elle l'était, n'importe quoi lui aurait paru délicieux, mais cette spécialité était vraiment savoureuse. Jensen prit l'autre tourte et aida Tom à se restaurer tout en conduisant le chariot.
La lune se lèvera peu de temps après le coucher du soleil, dit le marchand quand il eut fini de manger. Lorsque j'atteindrai le col, il devrait y avoir assez de lumière pour que je puisse continuer. Il y a une pile de couverture à l'arrière, comme je te l'ai déjà dit. Quand il fera nuit, tu devras te faire un petit nid et dormir un peu pour être en bonne forme demain matin.
Crois-moi, ça ne sera pas superflu.
Moi, je me reposerai pendant la journée. Et le soir, quand tu reviendras de chez Althea, je serai prêt à repartir. En procédant ainsi, nous ferons peut-être assez vite pour sauver ton ami.
Merci, Tom,
dit Jensen au compagnon providentiel qu'elle ne connaissait pas quelques heures plus tôt.
Tu es vraiment un brave garçon.
C'est ce que répète toujours ma mère. J'espère que c'est également l'avis du Seigneur Hall.
Tu lui diras du bien de moi quand tu le verras, j'espère.
Jensen ne comprit pas ce que voulait dire Tom, et elle eut trop peur pour le lui demander. Pourtant, il fallait bien qu'elle trouve quelque chose à répondre. La vie de Sébastien était en jeu.
« Bien entendu, »
dit-elle enfin,
« tu peux compter sur moi. »
Au sourire qui s'épanouit sur les lèvres de Tom, la jeune femme devina que c'était la réponse dont il rêvait.